Alright.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
J'ai pas arrêté de faire des blagues à Jean-Loup. J'y ai mis un siège trop petit exprès et j'ai bien rigolé. Et après, avec Tom, on y a mis une lumière dans le museau.
J'ai vu ça derrière la tête. Genre Gestapo, quoi. Oui, oui, j'avoue.
Mais c'est de votre faute aussi. C'est votre amour immodéré pour les boîtes de nuit, les ambiances glauques. Et vous adorez être dans la mi-pénombre comme ça. Vous avez des choses à cacher.
Vous ne deviez pas vous présenter, non, du ça par hasard.
Tout le monde sait que je m'appelle Roger.
Ah, mais peut-être que des nouveaux
auditeurs.
Laissez-moi faire mon entrée sans oublier notre bon
Tom.
Tom, voilà, qui fait la...
La technique.
Bien, voilà, c'est, il a fait bien en plus, quoi. Là. Et vous écoutez, comme tous les mercredis, les Grignoux de 21h à... de 20h à 21h30, le dimanche vers 15h. Sinon, vous tapez les Grignoux sans X, sans S sur Internet, pas de problème, vous tomberez sur le blog. On peut mettre un disque, si vous voulez.
Moi, je dis, c'est bien. Et on embraye tout de suite par un disque de la présentation de la programmation, à Roger. Pour une fois qu'on est à l'heure, on va en profiter. Je crois que c'est Kitty Daisy and Lewis. Tiens, ça, c'est original.
Ça faisait un moment que j'ai pas entendu ça.
Ça me dit rien du tout, ce morceau.
Non, c'est qui? C'est les petits jeunes qui les marrent.
Non, mais ce morceau-là, je l'ai jamais passé.
Non, mais si vous voyez de l'ironie dans mon ton de voix.
Non, j'en vois absolument pas.
C'est absolument pas de l'ironie, je dis ce que je pense.
Je vois pas de l'ironie.
Polly, put the kettle on, all empty. Bring a buds, good enough, friend.
God's good enough, good enough me.
Eh oui, Kitty, Daisy et Lewis, elles sont terribles, mais là, pour le plus grand dame de Tom, c'était pas une vidéo.
Ouais, c'est dommage.
Mais
ouais.
Vous le mettrez sûrement sur le site.
Oui, je vais mettre un lien.
Yes, voilà, super, ouais. Vous allez mettre un lien. Et ce soir, une émission bourrée, ouais, puisque nous recevons...
Vous ne regardez même pas, vous êtes plongé dans vos notes, et puis moi... Ouais, bourré, on le fait ensemble d'habitude. Roger, vous couvez quelque chose, là.
Je ne sais pas, peut-être un rhume, allez savoir.
Ah, bah ça...
Tout simplement, parce que ce soir, une émission bourrée, je le dis en vous regardant cette fois-ci, nous recevons Monsieur Yves Abotret. Yves Abotret, est le secrétaire de la... RVB. Et l'ARVB, c'est quoi, Jean-Loup ?
Là, vous me prenez de... C'est l'association pour la reconnaissance du vin breton.
Voilà, des vins de Bretagne.
Pardon.
Une asso qui est née en 2005. Et en plus, c'est rigolo parce que pour une association pour le Pinard, les statuts de cette asso ont été déposés à Saint-Brieuc. C'est une association qui vise à sensibiliser la population et puis à aider les gens qui seraient tentés par l'expérience, mais de manière, attention, à amateurs, on parle d'amateurs, puisque cette association regroupe les amateurs qui le souhaitent, qui sont producteurs de vin, donc pas les professionnels.
Enfin, si j'ai bien compris aussi, il y a une partie amateur qui ne sont pas soumis à la même législation, j'ai pas tout compris, hein. C'est pour ça qu'on va
on va justement M. Abotret, et puis naturellement, il y a déjà des professionnels sur le terroir breton.
Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter.
Sûrement que M. Abotret est au courant de la situation, donc il va nous en dire sûrement plus, un sujet qui tâche.
Qui tâche, on peut le dire comme ça. Et moi, je vais être honnête devant les auditeurs. Bon, le vin, je connais, j'en bois. Donc, je ne veux pas dire que je ne connais pas, là. Mais je suis un peu un âne en vin, du style, j'aime bien tous les rouges, le blanc, j'aime pas. À part ce que j'appelle le blanc de gonzesse, celui qui est moelleux, c'est ça, qui est un petit peu
ça,
sucré.
C'est ça, le bon basilic. Ça, j'aime bien, ça, là. Qu'on mangeait avec les vins à mocha au café.
Et j'y connais pas grand-chose. Et puis, il y a des questions qui m'ont surprise aussi. On en parlait en préparant l'émission. Quoi, du vin en Bretagne, avec un grand point d'interrogation et un point d'exclamation?
L'aventure s'est terminée en 60.
Ouais, bon, pareil. Voilà. Ouais. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, c'est pour ça qu'on va justement accueillir cette
Monsieur
personne.
Monsieur Yves Abotret, après un petit lexa programmation à Jean-Loup.
C'est vrai ? Allez, on va retourner dans le bon monde garage et vous allez voir, j'ai préparé une nouvelle compilation qui va vous nettoyer les oreilles, mais dans un sens plus cool, plus love, plus 2024.
Voilà, ça me fait peur.
Vous comprendrez quand je la passerai. Allez-y. C'est la rubrique à qui ?
Oh. Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger!
Je suis entièrement d'accord avec vous, tout ce que vous allez dire.
Hein? Nom de Dieu de
comme
bordel.
Comme quoi, je ne cherche pas la contradiction.
Ah ben on va voir si vous êtes toujours d'accord avec moi.
Nom
de Dieu de bordel, de chéri de mes couilles à cul. Et
oui.
je rajoute, va te faire enculer. Et vous savez pourquoi je dis tout ça? Parce que
c'est pas personnel, j'espère.
Absolument personnel. Bon. C'est tout simplement pour faire remonter le score en vue d'obtenir la première place. Parce que selon la plateforme Preply, une plateforme qui est spécialisée dans tout à fait autre chose, c'est une plateforme de cours en ligne. Eh bien, elle fait une espèce de sondage auprès de 1500 personnes des 15 plus grandes villes de France.
Ouais.
Et Rennes arrive en deuxième ville de France pour celle qui utilise le plus souvent de gros mots de putain de chérie. De bordel à cul.
Ouais. Et on paye des gens pour...
Et le titre de la ville qui jure le plus revient à Clermont-Ferrand, avec en moyenne 8 jurons par jour. Une première place qui se joue au coude à coude, puisque les Rennais utiliseraient des gros mots 7,6 fois...
Plus grossier, plus...
Bah à partir de putain, déjà, qui
bah
nous...
Putain, c'est une virgule. Ça,
ouais, bah voilà, bah déjà, non, pour prépli, c'est un gros mot.
Oh putain.
Eh bah, ben voilà, putain, le chéri de bordel. Et je me rappelle de ma pauvre maman qui me disait, ah, j'ai donc de Dieu de bordel. Et comment, elle me disait, ne jure pas, qu'elle me disait, ma pauvre mère. Eh ben, elle serait pas contente. Alors, prépli détaille que les résidents de la capitale bretonne jurent tout particulièrement en conduisant, 52%. Et chez eux, à 45%, notamment, moi, il faudrait aussi préciser, moi, je revendique le droit de jurer, notamment quand je bricole. Bordel de nom de Dieu de... bordel de nom de Dieu de merde, de marteau de mes couilles, voilà. Par exemple.
ça, c'est quand vous avez du mal à bricoler. Ça vous...
Voilà, quand vous cherchez votre marteau, où est-ce que tu es, sale enculé? Le marteau, on n'a rien à foutre, il n'a pas d'oreille. Mais ça, vous le dites déjà.
C'est vrai.
Et voilà, sale enculé, ça fait déjà deux gros mots, but. Alors peut-être que Rennes, c'est une ville aussi où on bricole beaucoup.
Mais alors, moi, j'ai une petite question à vous poser, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais comment ils savent tout ça?
Parce qu'ils ont fait un sondage auprès de 1500 habitants des 15 plus grandes villes
de
France.
Les gens devaient compter le nombre de fois où
ils disaient... Oui, ils devaient dire au sondeur à peu près combien de fois jurez-vous par jour.
Ouais, et 1500, c'est ça, en France?
Oh, non, 1500 habitants par ville.
Et en tout, par ville, ok, d'accord, pour être précis. Bon, ça c'est des gens qui au moins qui sont payés à faire les choses utiles, ça c'est bien.
Ça c'est amusant en tout cas. Moins ce qu'il est moins... C'est que depuis le 1er janvier, il n'y a pas que les clopes qui augmentent. Désormais, depuis le 1er janvier, refuser à deux reprises un CDI après un CDD ou une mission d'intérim entraîne une privation des allocations chômage. Les employeurs peuvent désormais, en quelques clics, signaler les salariés concernés à France Travail. Trois syndicats vont d'ailleurs attaquer ce décret. Il faut savoir que 7 minutes, c'est le temps que dure un patron pour remplir un formulaire en ligne dénonçant un employé qui refuse un CDI. Ce nouveau recul des droits est une disposition de la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, adopté en l'automne 2022 par le Parlement, qui vient donc d'être tardivement précisé par un décret discret publié fin décembre 2023. C'est bien, désormais au premier refus vous êtes prévenu, au second vous êtes privé d'allocation, poil au fion.
Mais ça fait encore une chose. Ça prouve que vous ne cherchez pas vraiment du travail si vous refusez.
Eh bien ça tombe bien, j'aimerais pas être jeune aujourd'hui parce que... Enfin, jeune, je ne sais pas si vous avez remarqué,
ou vieux.
Mais j'ai l'impression que Macron, il en veut aux jeunes. Alors, c'est pas parce qu'il a nommé un ministre nouveau-né, que, comme quasi-nouveau-né, que... cette impression, comment dirais-je, a disparu pour autant, parce qu'il y a des gosses, ils font vieux tout de suite. Attal, vous le voyez dans son costard, quand on vous dit qu'il a que 34 ans, moi je lui en donne 45, bah, tranquille.
Celui
il paraît qu'il a déjà commencé à choper plein de cheveux blancs.
Celui du Front National, j'ai oublié son
Jordan.
Nom. Ouais, c'est ça, il a même pas 30 ans, et il fait 40.
Il fait, ouais, hein, et c'est français ça, Jordan?
Bardella, oui. Jordan, je sais pas.
Alors en tout cas, je ne sais pas, mais à travers le... Alors je ne l'ai pas regardé, hein, mais j'ai vu ce que les commentaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, à propos de la longue conférence de presse de Macron, et au cours de laquelle, les responsables de tout le bordel, c'est les jeunes. Alors on va les éduquer, on va leur filer un uniforme à l'école. si ça ne suffisait pas, on va élargir le, comment, ce fameux SNU, là, qui ressemble pas à grand chose, ma foi, puisque rien à voir avec le service, l'ancien service militaire, puisque ça dure 15 jours, aux frais de l'éducation nationale et sur le temps scolaire. Alors, c'est assez rigolo, au jour où on a une ministre qui bat tous les records, mais c'est aussi le problème d'élire une, de nommer une sportive, elle faut qu'elle pète les scores, quoi. À 24 heures qu'elle était là, 24 heures, elle a foutu tous les affreux barbus de la MGEN et de la commande, de tous les syndicats gauchos dans la rue au bout de 24 heures de fonction au sein du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je dis chapeau.
Bah, bah,
si, si tous les athlètes français, qu'elle a, parce qu'elle est aussi ministre des Jeux Olympiques, elle est ministre des Sports et ministre de l'Éducation nationale, une première sous la cinquième. Sous la cinquième, on a connu des ministres de la Jeunesse et des Sports, mais l'Éducation nationale a toujours fait l'objet d'un ministère à part.
Ouais.
C'est nouveau, c'est Macron, c'est le nouveau monde. On va voir comment ça va donner, mais vu le résultat, je suis un petit peu, comment dirais-je, comment pourrait-on dire
un peu déçu quand même,
ouais,
hein,
ouais,
ça, vous
ouais.
aimez pas trop les... Hein,
coup d'arrêt aux activités d'Anticorps, je voulais en parler la semaine dernière, j'ai totalement oublié. Anticorps, on les a reçus il y a très très longtemps à Canal B, oh, on devait être encore au Gast à cette époque-là, et je leur en suis reconnaissant, parce qu'Anticorps c'est pas une association de nains, c'est quand même une association qui a traîné nombre de hauts politiques, comment dirais-je, dans les prétoires. Le problème, c'est que on vient de connaître un pas en arrière dans la lutte contre la criminalité en col blanc, à savoir la corruption, puisque l'association de lutte contre la corruption Anticorps n'a pas obtenu en fin décembre le renouvellement de son agrément qui lui avait permis de soulever de nombreuses affaires, dont la Dupont-Moretti en question. Et c'est un coup dur pour la corruption, et c'est d'ailleurs remarque que fait le procureur, le procureur de la République, qui dit que tout de même la lutte contre, procureur général honoraire, pardon, à la Cour de cassation, qui déclare la lutte contre la corruption devrait constituer une priorité et nécessite une tolérance zéro, a-t-il réagi, et il note en plus que ce n'est pas très normal, il serait bien plus sain, pour être précis, que pour notre démocratie, que ce ne soit pas le gouvernement qui statue sur les demandes d'agrément, mais une autorité administrative indépendante comme la haute autorité sur la télévision publique.
Donc, si Anticorps n'a pas d'agrément, c'est-à-dire que ça compte pour du beurre.
Alors, l'agrément, non. En fait, l'agrément, c'est ce qui vous permet d'ester en justice. Même si vous n'êtes pas concerné directement.
Ouais, d'accord.
Vous voyez,
bah là,
je cause un tort à Tom, et vous, par faillotterie, je vois bien comment vous faillotez avec Tom, etc., vous allez dire « Ah ah, je te poursuis en justice, Roger, parce que tu as fait de la misère à Tom. Tu peux pas, parce que tu n'as aucun lien, je ne t'ai nui en aucune façon, donc tu pourras pas. » Or, Anticorps avait ce pouvoir-là, notamment pour lutter contre la corruption en col blond, et j'invite d'ailleurs tous les auditrices et auditeurs à retomber sur l'émission, qui est enregistrée, c'est vieux, il va falloir fouiller.
Bah, depuis 2009, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et comment... Et c'était excellent de voir le magistrat qu'on avait au téléphone nous expliquer comment la lutte contre la corruption à col blond était un pendant de la démocratie. Le nouveau monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
Eh ben, qu'on va s'écouter un petit disque.
Ouais, hein, ça va nous remonter le moral.
Ouais, détendez-vous, je vous sens nerveux. À chaque fois que vous parlez de Macron, vous transpirez de partout, c'est une horreur. Là. Allez, détendez-vous, un petit disque, c'est parti.
Retreat.
Allez, Roger, Roger, une petite nouvelle qui va vous détendre.
Est-ce que vous savez ce que ce sont que les nitrites?
Ah, c'est sûrement une saloperie qu'il faut surtout pas en manger de la mort.
Si, vous en mangez régulièrement quand vous mangez de la charcuterie, c'est un peu nécessaire quand même, d'une certaine manière, parce que ça permet de flinguer botule. Botule, c'est qui? C'est comme une espèce de substance. Alors, on a quand même un scientifique avec nous.
C'est bien, ça donne le botulisme, si je ne dis pas le bêtise.
C'est ça, c'est un poison toxine, mortel. Et c'est dans la charcuterie, ouais, c'est une saloperie dans la charcuterie. Ouais. Et donc, on met des nitrites. Sauf que on abuse et on use et on abuse des nitrites parce que l'intérêt de la nitrite, au-delà du botulisme, c'est aussi que ça permet de garder la viande.
Ça conserve.
Longtemps.
Et surtout rose.
Pardon ?
Et surtout rose. Le jambon est rose à côté.
Ouais, rosir la came, tout à fait, vous avez raison de le souligner. Et le problème, c'est que ça donne le cancer. Ça donne le cancer et ça, c'est clair. Et Richard Ramos, est-ce que vous connaissez Richard Ramos ?
Ah, Ramos, c'est sûrement un espagnol,
il est français. Oui. Il s'appelle Richard Ramos, il est député du Modem du Loiret, et il appartient donc à la majorité. Sauf que ça n'a quand même pas empêché d'envoyer un courrier bien sanglant au président de la République, accompagné de deux paquets de croquettes pour chiens sans nitrite. Et il déclare, il déclare au président de la République, il est quand même un peu incroyable que pour vos chiens, on ait réussi à pondre une loi qui interdit les nitrites dans les aliments pour chiens et chats parce que ça leur fout le crabe, et que pour les consommateurs, le lobby de la charcutaille ait réussi à faire capoter l'affaire.
Mais là où il se trompe, enfin là, si je peux me permettre de faire une parenthèse, vous n'êtes pas vétérinaire, vous savez bien que les animaux de compagnie ne peuvent pas manger comme les humains.
Non, mais c'est je pas vous parle bon. De, les nitrites, c'est le des chocolat, c'est pas qu'on bon. Mettait dans les croquettes et qu'on met plus.
Oui, pour protéger les animaux.
Voilà.
Mais nous, on en a besoin.
Non, on n'en a pas besoin du tout. On a besoin pour l'industrie agroalimentaire.
Je ferme la parenthèse.
Ouais, quelle parenthèse. Mon Dieu,
c'est pas une parenthèse,
c'est un clapet. Un clapet. Donc les lobbyistes, a-t-il déclaré, Richard Ramos, ont réussi à faire que ce ne soit pas interdit. Et la véritable honte dans tout ça, c'est que on est véritablement dans la quatrième dimension, comme le dit Alma Dufour, députée LFI, puisque en deuxième lecture du budget, les macronistes et les LR ont voté contre la TVA réduite pour les transports en commun. Mais pour la TVA réduite pour les transports de chevaux, les chevaux des riches ont plus d'égards que la majorité des Français. Voilà. Et après, en pleine reconversion écologique, il ne faudra pas s'étonner si effectivement le train coûte si cher.
Alors, une autre parenthèse, puisque vous parlez du fameux jambon tout rose. Alors, quand j'étais gamin, je croyais que le jambon c'était rose. En fait, non. Sans aller d'accord, j'en ai vu des vrais. C'est pas rose du tout. Il y a une marque, il y a 2, 3, 4 ans, je me souviens plus, c'est assez récent, qui a essayé de mettre justement du jambon sans nitrite, c'est ça, je dis pas de bêtises, et qui avait une couleur un petit peu plus marronnée, qui était un peu plus proche du
La couleur de, normalement de ce qu'il devrait être. Quoi.
Et alors, pourquoi ça a complètement disparu?
Parce qu'on est habitué à du rose.
Exactement.
Alors ça n'a pas disparu, mon petit père.
Ou c'est devenu...
Non, il y en a encore, j'en achète, moi, perso.
Mais ça n'a pas cartonné, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ça n'a pas cartonné, vous le savez pourquoi? Parce que c'est plus cher.
Ah, c'est ça, c'est pour ça.
Oui.
C'est pas tout, moi,
cher, mon petit chat. Regardez.
Les gens, regardez le rose.
Vous regarderez quand vous irez dans le magasin, pouf, et vous allez voir, okay, mais c'est scandaleux. Non seulement ils mettent un produit en moins, mais ils vendent plus cher. Alors pourquoi, ils vendent moins cher?
Il y a aussi le fait que le nitrite, en fait, ça permet de stocker de l'eau. Et l'eau, du coup, ça pèse plus lourd.
Voilà.
Donc, du coup, c'est pour ça aussi que ça vaut plus
cher. Et là, du coup, ils vont vous dire, on vous empoisonne pas, mais presque on est perdant, donc tu vas payer plus cher.
Ouais, puis un truc que je comprends pas, avant qu'on se mette un petit dit, c'est le jambon.
J'ai une dernière.
Si vous voulez, je parle juste du jambon, après on passera à autre chose.
Jambon.
J'aime bien quand il est rose, mais pourquoi ils rajoutent, j'en achète jamais, espèce de couche de gras par-dessus.
Ça, c'est la couenne.
C'est pour faire du poids,
non,
c'est ça.
Il faut mieux. La couenne, ça veut dire que c'est pris directement avec le morceau de peau du jambon, du cochon. Si vous n'avez pas la couenne, vous pouvez avoir affaire à du jambon reconstitué, et ça, vous ne le savez pas.
Voilà.
Plein de jambon pourri, et acheter sans couenne,
non, mais je
vous
écoute,
êtes garanti de bouffer n'importe quoi.
Une petite dernière, après on s'écoute un petit discours.
C'est pas moi qui décidera les droits fondamentaux, a déclaré le ministre Stéphane Séjourné, épinglé pour ses fautes de français. Alors, parce que le casting, alors on n'a même pas parlé de Rachida Dati, mais qu'est-ce que je vous dise, la réalité dépasse la fiction, donc du coup, il n'y a même plus rien à dire. Et pour Stéphane Séjourné, Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le népotisme ?
Oui, c'est quand on prend en fait toute sa famille, c'est ça, pour
famille,
mettre dans les postes amis, proches,
mari, ou femme, etc.
Voilà, ouais, ouais.
Stéphane Sajourné, Gabriel Attal, ça vous dit rien ?
Non.
Eh ben c'est dommage, parce qu'ils sortaient ensemble avant. Ils sortaient
Ouais.
Et c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Le problème, c'est qu'au Quai d'Orsay, on met à la tête du Quai d'Orsay, pas des gens dont je suis particulièrement fan, mais des gens qui ont au moins un peu de brillance. Genre, vous rappelez de le ministre des Affaires étrangères de Chirac, comment il s'appelait, le blond là, putain, qui a un grand nez, aidez-moi.
Tintin.
Mais non, pas Tintin, Tintin, il a une houe blonde.
C'est contre la guerre en Irak.
Voilà, contre la guerre en
de
Irak.
Villepin, de Villepin.
Villepin, oui. De Villepin. Eh ben, on avait des gens comme de Villepin. Maintenant, on a des gens qui disent, c'est pas moi qui décidera les droits fondamentaux. Voilà, c'est le nouveau monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors les médias aux ordres ont dit « Oh, mais c'est parce qu'il est victime, il souffre d'une maladie bien connue. » Alors je sais pas, ça m'a saoulé, j'ai pas lu l'article, parce que si c'était l'espèce de dyslexie orale, j'ai un peu de mal à croire que ce monsieur-là soit arrivé où il est arrivé, en faisant preuve de pareilles carences, mais c'est pas grave. Et on termine au niveau des avec la super baguette de Brie d'Or.
Respirez, Roger, vous avez...
Est-ce que j'en ai parlé de la super baguette de Brie d'Or ?
Quand personne ne vous répond, c'est
bah
que...
Non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
C'est pas bon, non, bah, c'est sûrement pas bon.
C'est pas que c'est pas bon, c'est que la Cour administrative d'appel de Nantes, et ça c'est quelque chose qui va faire plaisir à notre invité d'il y a 15 jours, il le sait déjà sûrement, a désavoué l'industriel Brie d'Or de Servan-sur-Vilaine qui voulait faire annuler le jugement rendu en sa défaveur au sujet d'une baguette. Quelle baguette ? Il voulait faire annuler un jugement qui lui enjoignait, de modifier l'illustration de son emballage, car sur l'emballage, on voyait deux mains formant un cœur devant un ventre avec la légende suivante « C'est bon se faire du bien ». Sous-entendu, l'emballage mettait en avant le fait que les bêta-glucanes présentes dans la susdite baguette, contribueraient au maintien d'une cholestérolémie normal, c'est-à-dire vous,
Mais qui ça avez craint,
du... Donc c'est génial. Vous achetez cette baguette, vous qui avez du cholestérol par exemple.
J'en ai absolument pas pour le moment.
Il paraît que vous aviez du cholestérol.
Ah non, c'est pas moi, tout va bien.
Il a tout le reste sauf le cholestérol.
Non, okay, il n'a pas de cholestérol.
C'est un problème de,
on va dire, sodium. Imaginons que vous ayez du cholestérol.
Ah, c'est pas le cholestérol, mais attendez. J'ai du cholestérol. Je le dis publiquement, c'est, j'ai absolument pas de cholestérol.
Vous auriez pu être tenté de manger cette baguette. Sauf que une baguette pèse 230 grammes et il est nécessaire de consommer 200 grammes pour bénéficier de 1 gramme de bêta-glucane, a précisé la Cour administrative. Ce qui veut dire que Brie d'Or ne justifie pas qu'une telle consommation dépasserait la quantité de produits raisonnablement susceptibles d'être consommés par une seule personne à une occasion unique. C'est-à-dire que vous pouvez manger plein de baguettes, mais vous allez mourir. Vous allez mourir étouffé avec la baguette Brie d'Or. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il n'a pas pu construire son usine pourrite et il ne peut plus vendre sa baguette.
Et là où il se gourre, et on va s'écouter un petit dit aussi, c'est qu'on regarde la consommation de pain actuelle et celle qu'elle était il y a un siècle, ça n'a rien à voir. Quoi. Nous, aujourd'hui, on mange 200 grammes de pain, et il y a un siècle, ils mangeaient 500, 600, 700 grammes de pain.
On mange pas 200 grammes de pain par jour,
Encore
moi,
moins.
Je suis un mangeur de pain, je ne mange pas 200 grammes par jour.
Et avant, ils mangeaient au moins, je ne sais pas, mais c'était plus
centaines. C'était le kilo, en début de...
C'est assez incroyable, par
jour. C'est surtout qu'on mangeait surtout du pain, parce qu'il n'y avait pas grand-chose.
Mais ce qu'on mettait dans la soupe, on mettait partout.
Un petit lit, c'est parti.
C'est la misère.
La misère.
C'est toujours sûr. Eh bien voilà, Jean-Loup insiste pour que je fasse le bilan de Gabriel Attal. Moi, je voulais le faire
ça
la
fait
semaine
10
prochaine.
Jours qu'il est arrivé, c'est bien.
Quand il était ministre de l'Éducation nationale. Non, ce qui énerve surtout cet éditorialiste-là, c'est qu'en fait, Gabriel Attal détient un record. Alors nous, on est deuxième en jurons. Lui, il est deuxième en termes de durée au sein du ministère de l'Éducation de la Ve République.
Il a tenu
5 mois et 13 jours, juste derrière Benoît Hamon, qui lui avait tenu 4 mois et 24 jours. Naturellement, quel bilan peut-on dresser du passage ? Eh bien, en fait, selon les éditorialistes, si on les écoute, on ne peut qu'être sidéré par leur méconnaissance de l'éducation et surtout de leur auto-intoxication par leurs propres analyses. Cela est symptomatique d'un microcosme qui semble de plus en plus déconnecté de la réalité du terrain. Et c'est ainsi qu'on fabrique des pulls médiatiques, que l'on contribue à forger une pseudo-opinion à coups de sondages et d'articles complaisants. Rappelons donc quelques évidences et dégonflons quelques brodus, dit l'auteur de cet article. Nommé le 20 juillet, il est évident que la rentrée a été préparée depuis longtemps par l'équipe en place. Donc, là-dessus, il n'a rien branlé. La pseudo-revalorisation des enseignants n'est pas non plus de son fait, et elle reste bien insuffisante malgré les artifices de langage que ce super communicant a employé dès son arrivée. Le pacte, cet habillage de travailler plus pour gagner plus, a été un échec puisque on recense à peine 20% des enseignants qui l'ont signé, d'où le refus du ministère de l'Éducation nationale de publier les statistiques. Continuons avec les informations de nos éditorialiste, pardon, ignare, il aurait rétabli une uniforme. Faux, il n'a jamais été en vigueur en France. Et patati et patata aussi. Alors, il parle aussi au désastre de PISA, vous savez, une espèce de notation internationale où on plonge année après année. Mais c'est aussi, tout simplement, l'auteur rappelle le fait que si on n'avait pas une réforme qui courait après une réforme, qui courait après une réforme, peut-être que l'enseignement ne s'en porterait que mieux. Comme cette valse des ministres de l'Éducation nationale à ce poste de ministère, c'est un petit peu méprisant. Alors, on a eu Blanquer, qui lui aussi venait du privé. On a eu,
Tous.
Après,
tous.
On a eu Papendiaï, qui mettait lui aussi ses gosses. Alors, dans le privé laïque, lui, attention. Lui, c'est l'Alsacienne.
Attal, vous savez de où il était ?
Il vient de
l'Alsacienne. Aussi.
L'autre aimait ses gosses chez Stanislas. Bref, il y en a peut-être un peu marre. Et à partir de ça, et je voulais rebondir aussi sur un autre article à propos d'Attal, où il y a un site internet qui s'est spécialisé dans qui s'est amusé à étudier comment les médias avaient traité l'ascension de Macron et l'ascension d'Attal. Et c'est pareil.
Avec les mêmes mots, hein, c'est
ouais,
ça qui revient.
Les mêmes mots. J'ai vu ça. L'homme pressé, le bon élève de la majorité, l'homme plein de projets, il est brillant, etc. Et les éditorialistes ne se font même pas là l'effort d'inventer quelque chose d'autre. Non, ils reprennent la même soupe qu'ils ont utilisé pour Macron pour ne resservir la même soupe avec Attal.
Et alors on va se mettre un petit. Oui, j'ai juste deux choses à dire de Attal. Alors je sais que, pendant les 10, il va m'engueuler de la mort, me menacer avec ses petits poings qu'il faut absolument pas peur. Par contre, il a les grosses chaussures. Ça, j'ai un peu plus la trouille. Moi, il y a deux choses, d'une manière tout à fait naïve, que j'ai retenues d'Attal, et je trouve que c'est bien. C'est la baïa, point, terminé, interdit. Et c'est vrai que, je suis sûr qu'à Lannion, ils sont pas emmerdés par les abayas. Je pense que dans
mais
le.
Mais il n'était pas avant.
Marseille ou j'en sais rien, ça va être un petit peu plus compliqué.
Il a tapé sur les musulmans et autrement.
Et la deuxième chose aussi, par contre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du blabla, ça j'en sais rien, je suis pas dans le milieu, il faudra qu'on en parle justement avec des gens du milieu. C'est l'histoire de pas de vague. Il y a un gamin qui va vous menacer de mort, le proviseur, oui mais monsieur, vous savez pas lui parler, patati patata, vous inquiétez pas, je vais convoquer ses parents, calmez-vous, pouf, ça s'arrête là.
Vous a dit que Attal avait dit ça, donc c'est vrai.
Le premier, la baïa, c'est vrai, c'est noté.
Attendez, des chiffres, parce que vous n'avez pas de chiffres.
Non, mais
des chiffres, hein, Jean-Loup.
J'aimerais bien nuancer. Après, son discours sur le pas de vague, j'en sais rien. Il l'a dit, est-ce que ça va être réaliste ou pas ?
À votre avis.
J'en sais rien.
À votre avis, Jean-Loup, vous êtes vraiment naïf. Et au final, toute cette histoire d'Abaya, c'est aussi une magnifique manœuvre de diversion. Et en fait, c'est simple. Il a agité le chiffon rouge devant la mélange qui a ouvert sa gueule comme un crétin qui a fait monter les enchères. Résultat des courses, on ne parlait plus que de ça. Et on n'a pas parlé des non-remplacements de profs, on n'a pas parlé du nombre de dimensions de démissions de profs qui se multiplient, on n'a pas parlé des salaires en berne,
vous bottez
et
en
on
touche.
A parlé que de la baya, et vous... ça arrangeait bien.
Un point de détail.
Non, non, mais attends, non, c'est pas un point de détail.
Pour moi, non.
Ça permettait à, comment dirais-je, à Attal, de ne pas parler des vrais sujets qui fâchent.
Peut-être.
Et ça, c'est bien dommage, parce
peut-être.
Que les chiffres, c'est qu'au final,
oui, mais
cette
vous...
histoire d'interdiction de la baya, il faut ça. Vous savez combien il y a eu de rapports concernés dans toute la France de jeunes filles qui refusaient de porter la baya, qui refusaient d'enlever leur abaya?
Très peu.
67.
Oui, mais ça m'étonne
pas. Non,
mais
67, c'est-à-dire que 67
officiel.
Jeunes filles ont refusé irrémédiablement de porter la baya. Et c'est au nom de ça qu'on a pu étouffer tous les vrais problèmes posés à l'éducation nationale. Et c'est là, peut-être, que réside le génie d'Attal. Parler d'autre chose pour ne pas parler des vrais sujets.
On en parlera plus précisément, parce qu'on peut faire une pré-annonce la semaine prochaine. On reçoit justement des représentants
syndicat de l'éducation pour parler de la réforme du lycée professionnel.
Voilà, et ben on peut pas leur poser ce genre de questions, parce que c'est vrai, moi je connais pas le milieu. Allez, on se met un disque et après on va parler du pinard ou du pif ou du bon vin breton, j'en sais rien. J'en ai jamais goûté, j'aimerais bien en goûter peut-être un jour. Quand vous voulez, mon bon Tom, c'est parti.
Gotta be wise. You better straighten up before your mama counts to ten. You're just a big baby. You're driving me crazy. You gotta have it your way. You're just a big baby. Get grown or get flat gone. You're just a big baby. Well, you think you're a big star, but you're never gonna go far. You get A's in playing games, but you fail when it comes to love me. You're just a big baby. You're driving me crazy. You gotta have it your way. You're just a big baby. Get grown or get flat gone. You're just a big baby.
De dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans... Éduquons, éduquons.
Allô, allô.
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 Oui, ah. Bonjour. Eh bien, nous sommes désormais. Alors, je vais vous représenter un petit peu le contexte parce qu'il y a toujours des gougnafiers qui prennent l'émission en cours. Nous sommes toujours sur l'antenne des Grignoux. Nous sommes toujours le mercredi 17 janvier.
Exactement.
Et nous sommes désormais en compagnie de Monsieur Yves Abautret. Bonsoir.
Et bonsoir, les Grignoux.
Vous êtes secrétaire de l'ARVB. Alors, j'explique l'acronyme. C'est l'Association pour la reconnaissance des vins bretons. Et moi, je dois avouer que je vous ai découvert à travers un article de West France, il y a quelques mois déjà, vous avez un article paru dans West France, et je crois que c'était vous déjà, c'est comme ça que j'ai réussi à vous faire de la misère, à vous coincer pour vous avoir ce soir au téléphone, et je trouvais ça particulièrement intéressant, parce que il se trouve que Jean-Loup et moi, et Tom accessoirement, parce que Tom il est sportif, hein, c'est le sportif de l'équipe, il lui arrive de dire non. Je sais pas comment il fait d'ailleurs.
Bah, il dit non.
Il dit non. Il dit non. Alors ça lui vaut les pires.
Parce qu'avec vous, faut dire plusieurs fois non.
Voilà, voilà. Alors donc on le voue aux gémonies. J'aime bien avouer les gens aux gémonies. Et vous êtes donc. Alors je précise bien. L'association pour la reconnaissance des vins de Bretagne concerne les producteurs de vins amateurs.
Tout à fait. Tout à fait. Notre périmètre, c'est vraiment. La viticulture de loisirs, on peut aussi la décrire comme ça.
Et moi, j'avais une question idiote à vous poser, mais je pense qu'on a dû vous la poser 100 fois. Quoi, du vin en Bretagne? Mais ça n'a jamais existé. Et là, vous allez me dire, vous avez tort.
Et oui, et je vais vous redire que vous avez tort. Et grandement tort, puisque en fait, les traces de vignes en Bretagne, elles remontent... au haut Moyen-Âge.
Wow.
Et c'est tout à fait documenté aujourd'hui de façon très précise. Des ouvrages ont paru assez fréquemment ces dernières années sur le sujet, notamment notamment ceux de Guy Saint-Renan, qui a réédité un bel ouvrage l'année dernière, Le vin et la vigne en Bretagne, que j'invite tout un chacun à lire pour se plonger dans les méandres de l'histoire de la vigne sur le territoire breton. Si on prenait un exemple et un seul, qui montre bien ce caractère très ancien, c'est la toponymie, puisqu'on a recensé près de 8000 lieux-dits
sur le
territoire breton, dans lesquels on retrouve un lien avec une trace ancienne de vigne.
Combien vous dites? Vous dites combien? Oh,
7 ou 8 000 références dans la toponymie, toponymie bretonne.
Ah ouais, donc, c'est fou. C'est fou.
Eh oui.
Et donc, alors, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, je suis pas tout jeune non plus. Je sais que mon grand-père buvait du rouge avec tous ses copains, mais bon, c'était enfin ce qu'on appelait le grappiru, enfin ce que eux appellent, vous savez, les bouteilles de gros rouge étoilées.
Oui, les trois étoiles.
Ouais. Voilà, c'est exactement quoi. Je n'ai jamais vu mon grand-père boire du vin dit breton. Comment ça a disparu tout simplement?
Non, sans doute que votre grand-père, comme le mien, sont arrivés un petit peu tard. Peut-être que leurs propres parents avaient peut-être eu cette chance-là. En fait, les dernières vendanges professionnelles en Bretagne, elles sont pas si vieilles que ça. Parce que dans Morbihan, il y a encore une déclaration de récolte en 1994.
Alors, oh, vous voyez, c'est pas... D'après votre site, vous dites que les dernières, les vignes officielles auraient disparu à peu près au début des années 60, c'est ça?
Alors, oui, elles se sont... Il subsistait un noyau dans le Morbihan. On pense que c'était une viticulture qui suffisait à une consommation locale et qui était le reste d'une vigne qui, à une époque, a été beaucoup plus importante. Pour résumer, on va dire que du haut Moyen-Âge jusqu'aux
années 60,
1890, il y a 90. Eu de la vigne un petit peu partout. La première raison, c'était vraiment l'implantation du clergé. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on communiait dans les deux espèces. L'eau n'était pas forcément une boisson potable dans les campagnes. Et en fait, le petit clairet local produit soit pour le clergé ou soit pour les populations locales, c'était aussi une manière...
Le corps du Christ.
Le corps du Christ, et puis pour tout un chacun, une manière d'accéder à une boisson un petit peu plus potable, parce que même avec un tout petit degré d'alcool, quelque part, il y avait un effet sanitaire intéressant. Ce qui s'est passé ensuite, c'est passé comme dans toute la France. 1890, le phylloxéra a fait son apparition, donc un petit peu plus...
Rappelez-nous le phylloxéra, c'est quoi?
Alors, phylloxéra, c'est un vilain parasite qui vit dans le sol, et qui est arrivé des États-Unis, très probablement, déchargé avec des matériaux dans le sud de la France, c'est parti dans le Gard.
Ouais.
Et puis ce parasite-là, il a un malin plaisir, c'est de s'enquister sur les racines de la vigne et de la faire péricliter en quelques mois ou quelques saisons jusqu'à éradiquer le vignoble.
Ah ouais.
Voilà.
J'ai une autre question toujours pour parler de l'histoire du vin de manière globale. J'ai pas bien compris comment se sont fixés en fait
les terroirs,
le Bordeaux, le Champagne, enfin le Languedoc. Enfin, je dis ce qui me passe par la tête. Est-ce qu'il y a des règles officielles pour dire que le Champagne doit être comme ci? Bon, ça je m'en doute un peu, mais le Bordeaux doit être comme ça. Comment ça a été fixé finalement, ces règles qui ont l'air définitives quelque part?
Oh, c'est une longue histoire, une très très longue histoire. La vigne, on sait qu'elle est arrivée par le sud de la France, probablement par les Grecs, puis par les Romains. Et puis, elle a remonté les vallées, elle s'est implantée déjà très tôt dans les régions qui sont restées, des grandes régions viticoles. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, l'île de France était, et ça tout le monde l'a oublié, était la première surface plantée de l'Hexagone.
Ah, c'est fou, ça.
Bien devant les Champenois, bien devant les Bordelais.
Mais alors,
La vigne était vraiment implantée dans le nord de la France, et après, il y a beaucoup de décisions historiques et politiques, on va dire. Le phylloxéra, il est passé par là, il a éradiqué tout le vignoble, et en fait, aujourd'hui, la photographie du vignoble qu'on a en France, c'est celle de la replantation. après la crise phylloxérique, donc au tournant des années 1900-1910, et puis on va dire que on a tellement replanté qu'on a surproduit, et qu'à un moment le législateur il a dit ben stop, on fige les choses dans le marbre.
Et c'est là que ça a été le champ du cygne de la des vignobles bretons du coup.
Non mais attendez,
le champ du cygne pour les, on va dire pour tous les vignobles au nord de la Loire quelque part. Ça a été le champ du cygne puisque l'interdiction de planter a été éditée. Et ça a été plus loin que ça, c'est que les Morbihanais qui avaient replanté des cépages, ils avaient quand même essayé de reconstruire leur vignoble. On leur a demandé de tout arracher au prétexte que les plants hybrides qui venaient des États-Unis, bah, ils n'étaient pas si sympas que ça. Et qu'on allait mettre fin à la surproduction en interdisant aux Bretons notamment de continuer à faire du vin.
Donc je termine avec ça. Donc c'est cette histoire-là, c'est depuis ce moment-là qu'on a perdu le droit de faire de la vigne à des fins de vin en Bretagne.
À des fins commerciales en Bretagne, oui, tout à fait.
Alors là, on est en quelle année, là?
Les décisions, elles ont été prises après, au tournant des années 1930-40, voilà, un petit peu avant-guerre.
Ok. Jean-Loup.
On va s'écouter un petit disque et on va continuer après sur notre conversation, je le trouve très intéressant. À tout de suite!
Avec plaisir.
Ayata, your daughter, from Venturian border, a come.
Aya, aya, ta umana kon. Aya, ta jada, ta umana kon. Jada, ta aya, ta akoto son. Ungo malungo man. Ungo malungo.
Ogin Cocoa que Jean-Loup m'avait confié il y a bien bien longtemps et que vous ne passez plus, c'est bien dommage, c'est un excellent morceau.
Je sais bien, je vous laisse un petit peu la place, c'est gentil.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Abotret qui est secrétaire pour le RVB. Mais il y a quand même encore quelques petites questions en général, si vous nous le permettez. On aimerait bien vous titiller un petit peu sur le vin en général, avant de passer un petit peu à des points de vue plus techniques, parce que j'aimerais bien savoir comment ça se fabrique, moi, comment un amateur peut se mettre à fabriquer son pinard. Moi, ça me passionne. Donc, Jean-Loup, quelles questions vouliez-vous poser sur le historique?
Moi qui suis un petit peu un âne, entre guillemets, ou sans guillemets, comme vous voulez, en vase, c'est vrai, j'y connais pas grand-chose. C'est quoi ces histoires de cépage, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un cépage? C'est un croisement qui donne un vin qui a un goût particulier?
Alors, un cépage, oui, très, très bonne question. Un cépage, c'est une variété de vigne, et elle peut avoir... Pour faire dire les choses simplement, elle peut avoir deux origines. Une origine naturelle, c'est-à-dire qu'une vigne à l'état sauvage peut, au fil du temps, s'hybrider, évoluer, voir son ADN évoluer, et puis à un moment, un nouveau cépage apparaît.
Ouais.
Je vais vous donner un exemple assez pertinent qui va nous ramener à notre histoire de Bretagne.
Bretagne, ouais.
Tout le monde connaît le cépage emblématique des Bourguignons, qui est le Pinot Noir. Et il y a une très belle histoire à ce sujet, c'est que le duc de Bourgogne, qui fréquentait le duc breton avant du temps de l'indépendance bretonne, bah, il était de tradition, lorsque les ducs se rencontraient, ou les rois, de faire goûter le meilleur vin possible ou de s'échanger des plans. Eh bien... Figurez-vous donc que le duc de Bourgogne, il a offert des plants de Pinot Noir de Bourgogne au duc de Bretagne à Nantes, qui l'a planté. Et ben ce cépage-là, il a survécu depuis 400, 500 ans, mais il a survécu dans un isolat climatique, géographique, en ne rencontrant plus aucune vigne, et il s'est modifié lui-même par modification de son ADN, hybridation naturelle,
adaptation au climat,
et à tel point qu'il n'a plus, suffisamment de points communs avec le Pinot Noir d'origine pour être considéré Pinot Noir, et qu'il est lui-même devenu un cépage reconnu qui s'appelle le Berlingot. Le Berlingot, le vin des ducs de Bretagne, qui est fièrement développé par nos amis nantais.
D'accord. Alors, pour en revenir justement au vin breton, quels sont les cépages justement qu'on peut espérer voir donner du vin? Puis j'aimerais bien aussi une question toute bête, mais moi j'ai des vignes chez moi, j'adore récolter du raisin. Tom aussi a du raisin. Il se bat avec les guêpes et les
surtout frelons. Les frelons qui me bouffent mon raisin rouge.
Oui, mais chez les autres aussi.
C'est quoi la différence entre le vin de table? Et est-ce qu'avec Tom et moi, est-ce qu'on peut faire du vin avec notre vin de table, nos raisins de table? Il faut du
vin. Si, vous pouvez. Et je vais vous dire que les amateurs, les vignerons amateurs que nous sommes en Bretagne, on a souvent commencé un petit peu comme ça, hein, dans le fond du jardin, parce qu'on a une treille de raisin de ce qu'on appelle du raisin de table.
Ouais.
Et puis on s'amuse dans la cuisine en se disant bah tiens, cette année je vais en garder quelques petits kilos, puis je vais le mettre à fermenter, puis je vais voir ce que ça donne. On peut faire du vin avec du raisin de table, comme on peut faire de l'alcool avec n'importe quel fruit qu'on mettrait en fermentation quelque part.
Mais c'est pas si simple que juste on le laisse dans un saladier et puis on attend, quoi.
C'est pas si simple. Après, le processus de fermentation, il est pleinement naturel.
Alors, il y a un petit protocole quand même.
C'est quoi la fermentation, en fait?
Ouais, le protocole de fabrication du vin, c'est quoi?
Alors, on va dire simplement la définition du vin. C'est vraiment la transformation du sucre en alcool. Donc c'est une réaction chimique et qui est favorisée par les levures consommatrices de sucre. Les levures, elles sont naturellement présentes sur la pulpe, sur la peau des raisins. Et ce qui va différencier un raisin de table d'un raisin de cuve, comme on le dit, ce sont les qualités organoleptiques qu'on veut bien leur reconnaître, effectivement.
C'est-à-dire le taux de sucre, tout ça?
Alors, c'est... oui, par exemple, vous avez raison, pour pouvoir obtenir un vin avec un degré alcoolique suffisant, encore faut-il que la quantité de sucre, au départ, soit suffisante, elle aussi. Et là, il y a deux facteurs, c'est le cépage, on va dire, la constitution du plant.
Et le soleil.
Et puis, effectivement, le climat, bien entendu.
Et alors, de ce fait, on va broyer comment aller avec Tom. Déjà, on va pas mélanger nos deux vignes. Par exemple, lui, il a une vigne de raisin noir. Moi, j'en ai une aussi. C'est pas forcément la même variété. On va pas s'amuser à mélanger nos raisins.
Vous pourriez, rien ne vous empêche en tant qu'amateur, mais après, si vous avez envie de faire l'un un vin rouge et l'autre un vin blanc, effectivement, vous avez tout intérêt.
Alors, pareil, question d'Ignard, je ne sais pas. Est-ce que le vin rouge, c'est du raisin rouge et le vin blanc, du raisin blanc, ça n'a rien à voir?
Eh bien, c'est comme dans beaucoup de choses, il y a des exceptions. C'est-à-dire que vous avez des raisins noirs, un jus blanc. Mais par contre, tous les raisins blancs ont un jus blanc. Et le raisin noir, il a cette particularité que quelques cépages, lorsque vous les pressez, il s'en écoule un jus clair.
Ok.
Et une dernière question sur la technologie du vin. Moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris. Pourquoi le vin rouge, pour simplifier, il fait toujours 12 degrés, 12 degrés 5. Pourquoi il ne fait pas 15 degrés, 8 degrés? Enfin, vous voyez ce que je voulais dire? Pourquoi ça ne varie pas? C'est des normes ou...
Il n'y a pas de normes. La seule norme pour pouvoir s'appeler vin, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse 17 degrés d'alcool, ce qui est quand même quelque chose de déjà
pas mal.
Bien élevé.
Alors ça, c'est la loi qui dit ça ou c'est les producteurs?
C'est la réglementation.
C'est-à-dire que passer 17 degrés, vous passez dans le sirupeux, enfin je veux dire dans le spiritueux, pardon.
Oui, on va commencer à se rapprocher des vins, on va commencer à ressembler à un Porto, par exemple. Okay. Vous voyez. Par contre, un vin... Vous pouvez faire un vin rouge qui va titrer 7 ou 8 degrés si la saison a été mauvaise. Comme dans le sud de la France, avec les canicules que l'on a depuis quelques années, on voit les degrés d'alcool qui montent. Et aujourd'hui, il est fréquent de trouver sur le marché des vins du soleil, on va dire, qui sont à 14, 14,5, 15 degrés. Ça devient un problème et on voit même toute une ingénierie qui se met en place pour désalcooliser les vins,
chargés en alcool. Dans le temps, on chargeait les vins du Languedoc avec du vin d'Algérie qui était plus chargé en alcool.
Exactement.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait aussi bien enlever l'alcool qu'en mettre?
Techniquement, ça se fait de plus en plus, et pour deux raisons. La première, c'est malheureusement l'effet du réchauffement climatique qui fait que, moi j'en connais, des vignerons du sud de la France, du Languedoc-Roussillon, mais même un petit peu plus haut, dans la vallée du Rhône, qui tous les ans sont confrontés à des degrés alcooliques trop hauts, et qui doivent investir dans du matériel de désalcoolisation. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution la plus intéressante et la plus naturelle, c'est de modifier les modes culturaux pour éviter ces montées des degrés d'alcool trop forts. Et puis, on voit aussi que en phase d'adaptation, aujourd'hui, on disait toujours dans le sud de la France, on vise les versants sud, on s'expose au soleil. C'est de moins en moins vrai pour échapper au réchauffement climatique. Maintenant, on n'hésite pas à planter avec des expositions moins favorables, voire planter au nord, pour échapper à la canicule. Et puis, si on peut monter un petit peu en altitude, c'est également une réponse qui permet d'éviter de sortir des vins trop puissants. Et l'autre raison, c'est aussi les modes de consommation qui changent. On voit des jeunes générations qui copient un petit peu les appétences ou les goûts de nos amis nordiques, Suède, Norvège, les vins à 8-9 degrés, on le vend en poupe, et c'est sans doute un des produits de demain sur le marché.
Du coup, le réchauffement climatique, c'est une opportunité pour la Bretagne, parce qu'on va pouvoir faire monter la vigne vers le nord.
Exactement, c'est une opportunité pour nous Bretons, comme ça l'est aussi pour nos voisins de Normandie ou des Hauts-de-France. On voit un petit peu toutes les régions nord de la Loire, la Belgique devient une région très dynamique en termes de plantation de vignes également.
Est-ce que vous connaissez Fabrizio Buccella? C'est un dingo qui sévit sur Instagram. Je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer. Le... Et c'est sur Instagram, sur Facebook, sur le TikTok aussi, je crois. Et c'est un Belge, c'est un œnologue, c'est un professeur de, comment dirais-je, de chimie de l'Université libre de Bruxelles qui n'a rien à voir. Les Belges font tout à l'envers. Quand c'est libre, ça, c'est public. Et quand c'est privé, c'est privé. Quand c'est pas libre, c'est privé. Et il y a quand même un terme. Jean-Loup faisait remarquer, quand on préparait l'émission, il y a un terme. Et vous le mettez même en gras sur votre site, c'est le mot reconnaissance.
Oui.
On sent chez vous derrière quand même, pas un esprit de revanche, mais quand même, il y a une volonté, je dirais, pas idéologique, c'est un grand mot, mais quand même philosophique ou idéologique, on dira ce qu'on veut, de faire reconnaître aux Bretons le droit d'avoir faire du vin.
Que s'est-il passé en fait pour ces deux termes vous avez inversé, enfin changé, pardon.
Bonne question. Au départ, en fait, moi je suis rentré dans l'association il y a quelques années, mais je suis pas un pionnier de la RVB, mais par contre je peux parler au nom de mes aînés. En fait, la RVB au tout départ, elle s'appelait Association pour le renouveau des vins de Bretagne. Et puis ce terme renouveau, on l'a senti un petit peu rapidement, un petit peu border, parce que il semblait dire que qu'il n'y avait plus de vignes en Bretagne, et ce qui est un mensonge si on pense à nos amis de Loire-Atlantique qui, eux, ont ouvert la vigne depuis longtemps et n'ont jamais cessé de...
Oui, mais c'est pas en Bretagne, quand même. C'est en Loire-Atlantique. Je me plaisante à moitié en disant ça, bien sûr.
Il manipule beaucoup le second degré, notre ami, surtout quand il est sous. Méfiez-vous, méfiez-vous.
Oui. Non, mais pas de souci. Et nous aussi, mais voilà. Donc on est bien obligé de faire avec ce que l'État nous offre, hein, c'est savoir. Nous, à RVB, on rayonne sur le périmètre de la Bretagne historique. Nous avons des adhérents de Loire-Atlantique et nous avons de très bonnes relations avec eux. Maintenant, d'un point de vue légal, associatif et réglementaire, nous sommes rattachés à la Bretagne administrative.
Ben oui. Mais est-ce que c'est pas la triche d'avoir fait la Bretagne historique dans le sens où le pays nantais, ils sont un petit peu en avance par rapport au Finistère, au Morbihan, Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor?
Oui, ils sont...
Je vous tiens, là, je le
sens. Non, c'est parce qu'il est jaloux. C'est parce qu'ils ont du soleil. On s'écoute un petit Dix, et puis après, moi, j'aimerais bien vous poser quelques questions.
Ouais,
quand même,
sur
parce
le vin breton, pour le vrai.
Est-ce qu'il existe des
cépages.
Des cépages, des sites ou des spots, je ne sais pas comment on peut dire, que vous avez bien particulièrement, puisque vous êtes sûrement bien plus connaisseur que nous.
On en parle tout à l'heure, avec plaisir.
À tout de suite.
bring that. Until you 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 bring that.
Et bien voilà, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Yves Abautrey, secrétaire de l'ARVB, l'association de reconnaissance pour les vignes bretonnes. Et moi, j'avais envie de vous demander, parce que l'heure tourne, il est déjà 21h20, pardon, et à 21h30, on doit rendre l'antenne. Est-ce qu'il y a déjà des cépages bretons reconnus ou que vous, vous appréciez personnellement, Yves ?
Alors, bonne question. Les cépages que l'on trouve plantés en Bretagne par les vignerons amateurs et les vignerons professionnels, puisqu'ils existent maintenant depuis 2016, y a une dominante autour du Chardonnay, autour du Pinot Noir. Voilà, ce sont les deux cépages que l'on retrouve le plus souvent plantés. Le Chenin également. Alors, pourquoi ces cépages-là On arrive assez vite dans le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il faut choisir des cépages qui soient adaptables aux particularités de la Bretagne.
Alors voilà, et c'est là que voilà. c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que moi j'utilise un peu de bouillie bordelaise, j'utilise d'ailleurs même plus maintenant de la consoude pour lutter contre le mildiou quoi, qui envahit ma vigne à chaque fois, tous les ans. Et c'est marrant parce que, suivant les vignes, j'ai un espèce de raisin blanc devant, assez ancien, qui est très très vieux, qui était là avant que j'ai acheté la maison. Et quand j'ai acheté la maison, c'est celui-ci qui me l'a vendu, il me dit « Oh, le grand-père, il s'occupait de la vigne et tout. » Et je l'ai dégagé, elle était planquée derrière une vilaine plante. J'ai rasé la plante, je l'ai remis en train, et la vigne est revenue. Ça peut vivre combien de temps, une vigne ? C'est dingue, ça.
Ça peut vivre très longtemps. Ça peut vivre des centaines d'années. Et ce que vous dites est quelque chose d'assez répandu. Hein. Et c'est une autre preuve de l'ancienneté de la vigne en Bretagne. C'est que dans les campagnes, on peut encore trouver, ici et là, des amateurs éclairés peuvent reconnaître des anciens plants de vigne qui sont restés sur des talus et qui sont la signature qu'à un moment, il y avait une parcelle de vigne là qu'on a arrachée, qu'on a remplacée par autre chose. Sauf que le plant qui avait grandi sur le talus, lui, il est resté là. Et si je peux en deux mots vous raconter
Allez-y.
Une belle histoire sur l'ancienneté de la vigne, c'est que dans le Val de Rance, justement, du côté de Saint-Suliac, du Mont-Garot, où nous avons une association. De notre association ARVB présente depuis quelques années. En 1992, en défrichant une parcelle, ils sont tombés sur un vieux cep avec des belles grappes de raisin noir. Personne ne savait qu'elle était là. Elle avait visiblement beaucoup de dizaines d'années. Ces amateurs éclairés, ils ont, Ils ont prélevé quelques feuilles, ils l'ont envoyé à l'INRA de Montpellier. Ils ont demandé à faire une identification et la réponse magique et curieuse a été la suivante. Cépage totalement inconnu, ne fait pas partie des collections.
Donc c'était un plant de vigne totalement inconnu jusqu'à présent.
Qui était là sûrement depuis 400-500 ans, puisqu'on sait qu'au 15e, 16e siècle, dans le Val de Rance, il y avait énormément de vignes. Et puis l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, du côté des Charentes, même chose, une association fait du recensement, trouve exactement le même cépage physiquement, le prélève, la Malinera de Montpellier, même verdict, inconnu, mais c'est le même que celui de Saint-Suliac en Bretagne. Ils ont fait appel à leurs copains américains qui avaient des moyens de, on va dire, d'identification, de traçage génétique plus important, et ils sont arrivés à la conclusion incroyable. Ce cépage, on ne le connaissait pas. Par contre, on vient d'identifier que c'est le chaînon manquant dans la parenté du fameux Merlot, cépage emblématique du Bordelais, et c'est juste la mère du Merlot.
Waouh. Et moi, j'ai une autre question à vous poser, parce que l'heure tourne malheureusement. Voilà, moi, je suis originaire du Trégor. Bon, vous m'avez convaincu. On peut venir pro, la vigne pousse en Bretagne, etc., etc. J'ai quelques hectares dans les Côtes d'Armor. Et je me dis, je vais faire du vin, et puis avec le but d'en vivre. Comment ça se passe? Est-ce que c'est, je plante mes vignes, j'attends quelques années, hein, je crois, avant qu'elles produisent correctement.
Tout à fait.
Et après, je fais du vin que je vends. C'est facile ou c'est compliqué?
C'est pas facile.
Voilà, je m'attendais à votre réponse, mais...
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Déjà, la législation, depuis 2016, le permet, Dieu merci. Et aujourd'hui, si on veut donner quelques chiffres à nos auditeurs, aujourd'hui, il y a 54 dossiers viticoles professionnels qui sont déclarés sur le territoire de la Bretagne administrative. Moi, mon dernier recensement fait état de 100 hectares plantés. Il y en a sûrement autant dans les cartons en termes de projet. Ils sont surmajoritairement présents dans le sud du Morbihan, mais on trouve des vignes professionnelles en Ille-et-Vilaine. On en trouve dans les Côtes d'Armor, on en trouve dans le Finistère.
Oui, parce que vous êtes finistérien.
Je suis finistérien.
Et vous produisez, ou en tout cas vous essayez de produire votre vin.
Et je fais du vin en association sur la petite commune de l'Opérette, au sud de la rade de Brest, depuis. Et on a fait notre première vendange associative l'automne dernier.
Excellent. Voilà,
et on est fiers d'avoir 150 litres de chardonnay en maturation.
Et une petite question, vous qui êtes un spécialiste du vin, plus que moi, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Le vin breton, en fait, produit en Bretagne, pour simplifier, c'est quoi? C'est du vin convenable, correct, très correct, excellent? Enfin, je ne sais pas si vous le spécialiste, comment vous le jugez?
C'est toujours une affaire de goût personnel.
Ouais.
Il y a une montée qualitative qui est évidente et qui est aussi la signature que le climat se réchauffe et qui est aussi la signature que les hommes progressent. Tous les ans on se réunit en assemblée générale, ça se termine par une dégustation de vin amateur.
Yes.
Que l'on fait déguster à un jury un petit peu plus spécialisé, à l'aveugle.
Un jury impartial, naturellement.
Voilà. Et le constat, il est net et implacable. D'année en année, on voit une montée en qualité des vins. Et je vais vous donner un autre exemple qui prouve ça. C'est que, pas très loin de chez vous, en Ille-et-Vilaine, à Saint-Jouan-les-Guérets, Le premier vignoble professionnel a été installé, hein, c'est celui d'Edouard et de Pauline Casagne, les longues vignes. Ils ont fait leur première vendange et leur première mise en marché. Et ils viennent d'avoir le prix de la découverte 2024, décerné par la revue du vin de France, qui est la bible de tous les amateurs.
Waouh, excellent. Alors, par contre, Monsieur Abautré, malheureusement, l'heure tourne. Moi, j'aimerais que s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous ont, qui sont intéressés par vous rejoindre, on fait comment? Vous êtes ouvert à toutes les personnes qui ont envie. Ça peut être j'ai une vigne, j'ai pas de vigne. Comment on fait pour rentrer dans votre asso?
Tout à fait. L'association, elle est ouverte à tous, qu'on ait la volonté de devenir vigneron amateur ou un jour professionnel, ou tout simplement parce qu'on est intéressé par le sujet et qu'on veut participer à nos événements ou suivre l'actualité. Pour ça, c'est très simple. Une adresse, on a un site internet, Les Vignerons Bretons, et nous sommes contactables par email à l'adresse suivante. Contact.
Non, mais vous allez nous donner tout ça tout à l'heure. On va mettre ça sur notre blog. On a un blog sur lequel, par exemple, tout le monde pourra réécouter cette émission. Ça coûte cher pour s'installer. Si Tom et moi, par exemple, avec nos vignes, on veut fabriquer un peu de vin, ça coûte cher l'investissement de base pour créer un peu de vin.
Pour celui qui veut devenir vigneron professionnel ou
amateur,
ça vous coûtera plus d'huile de coude et de temps que d'argent.
Ah, cool.
Voilà.
Et professionnel?
Ah bah professionnel, c'est tout à fait autre chose.
C'est autre chose.
Voilà. Bah oui, parce que ça dépend de l'envergure de votre projet, etc.
C'est pas vous que je parle, quand
même. La question, vous avez eu un peu la question qui vous pose, monsieur Arbotret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Si on doit donner 2-3 chiffres, pour le principe de réalité, celui qui veut devenir un vigneron professionnel en Bretagne, sachant que on a des forces, c'est qu'on part d'une page blanche, et puis on a une faiblesse, c'est qu'en Bretagne, on n'hérite pas d'un domaine en place, donc tout est à construire. Il faut le foncier, il faut le trouver, il faut construire un chai, parce que ça n'existe pas, donc il faut faire tout. Et puis, pour en vivre, il faut 4-5 hectares pour une personne. Et c'est sans doute un budget moyen de 300, 400, 500 000 euros.
Waouh. Ouais, déjà, c'est déjà pas mal. Et quel site vous privilégieriez? Parce qu'on va monter vers le nord, on va monter jusque donc en Ille-et-Vilaine, on est au nord. Il faut quand même essayer de privilégier un petit coteau au soleil, quand même, non?
Alors, il faut cibler, effectivement, les choix de terrain sont... Il faut bien réfléchir son implantation, effectivement. Donc, on préconise une exposition plutôt sud pour avoir bénéficié du soleil le plus longtemps possible sur la période végétative et surtout permettre la fin de maturité des raisins. Et puis, au niveau des sols, si on doit retenir une seule caractéristique, le sol doit être drainant.
Il retient pas la flotte. L'argile du bassin Rennais, c'est pas top, par exemple.
Exactement. La vigne s'accommode de beaucoup de particularités de sol. On en trouve partout. Par contre, il y a une chose qu'elle n'aime vraiment pas, c'est rester les pieds dans l'eau.
Ok. Eh bien, écoutez, monsieur Arbotret, on vous remercie. Et comment vous êtes donc secrétaire de l'ARVB, l'Association pour la reconnaissance du vin en Bretagne. Vous ne raccrochez pas parce que, comment dirais-je, il va falloir qu'on prenne tous les contacts et puis qu'on vous explique parce que l'émission sera rediffusée dimanche et vous pourrez la diffuser auprès de vos adhérents par le biais de notre blog.
Et moi, de manière contractuelle, je suis là pour vous dire salut, à la semaine prochaine. C'est pas vous que je parlais,
c'est
bien sûr.
C'est déjà trop. C'est aux éditeurs. Moi, je dis c'est déjà trop.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Like a